Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Is kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy.
Bonjour à tous et à toutes. Ce vénérable quotidien hongrois devait fêter ses 80 ans cet été. Il n'en aura pas l'occasion. Le journal Magyar Nemzet a publié son ultime numéro le 11 avril dernier. Une décision prise par son propriétaire, un ancien oligarque tombé en disgrâce, 3 jours à peine après la réélection du Premier ministre Viktor Orban. Le reportage de Florence Labruyère aux dernières heures du quotidien.
Beaucoup de collègues travaillent ici. Nous avons...
Dernière journée de travail pour la rédaction du Magyar Nemzet. Une rédaction sous le choc. 48 heures après la victoire de Viktor Orban aux législatives, le propriétaire du quotidien a décidé d'arrêter la publication.
On a eu une réunion à 10 heures ce matin. Le PDG et le rédacteur en chef nous ont dit que le propriétaire arrêtait de financer l'entreprise. Alors on prépare le dernier numéro. Sur la page de une, il y aura le chiffre 80 en grosses lettres. Parce que le Magyar Nemzet a 80 ans.
À la fin du socialisme, il n'y avait pratiquement plus de censure. Le Magyar Nemzet était un quotidien libre de ton, lu par la bourgeoisie et les intellectuels. Au début des années 2000, il est racheté par Lajos Simicska, le financier et l'ami de Viktor Orban. Le média vire alors à droite. Il ne retrouve sa liberté de ton qu'en 2015, lorsque les deux amis rompent les ponts. Devenu l'ennemi d'Orban, Simicska fait du Magyar Nemzet une voix critique, un média d'investigation sur la corruption du clan au pouvoir. Mais cela n'a pas empêché Viktor Orban de gagner les élections. György Zsombor, rédacteur en chef adjoint du Magyar Nemzet.
Dimanche soir, notre propriétaire a dit que le Fidesz, le parti d'Orban, avait de nouveau la majorité des 2/3 au Parlement. Et ça, malgré les articles percutants qu'on a publiés. Dans n'importe quel autre pays européen, ça aurait fait tomber un gouvernement ou des ministres.
Le Magyar Nemzet a ainsi révélé, preuve à l'appui, qu'un ministre avait eu accès à une mystérieuse somme de 4,5 milliards d'euros. Une somme énorme en Hongrie, équivalente au budget annuel de l'éducation. Le ministre n'a pas pu expliquer l'origine de cet argent.
Le propriétaire voulait dire aux Hongrois que ce gouvernement est une mafia qui vole l'argent public. Mais on n'a pas réussi à communiquer ce message. La majorité de la population n'a pas compris ce qui se passe dans le pays.
Le Magyar Nemzet n'a pas fait le poids face à l'empire médiatique du gouvernement Orban qui a imposé le thème omniprésent du danger migratoire. Le journal est une victime de la guerre entre le Premier ministre et son ancien allié. Selon certains journalistes, Simicska, le propriétaire du Magyar Nemzet, aurait anticipé la vengeance de Viktor Orban en sabordant le journal. Daniel Ranki, directeur du service photo.
Toute la rédaction savait qu'on était une cible. Bon, ce qui nous arrive, ce n'était pas une offre d'achat hostile, mais ça nous pendait au nez. Certains membres de la rédaction envisagent d'arrêter le journalisme. C'est le deuxième quotidien national qui ferme en 2 ans. Il y a de moins en moins d'air pour respirer, de moins en moins de vrais médias où on peut faire du vrai journalisme. Origo était un journal de haut niveau, mais il a été acheté par des amis du pouvoir et maintenant c'est une coquille vide. Finalement, c'est peut-être mieux qu'on ne subisse pas le même sort. Mais en même temps, il y a 100 personnes sur le carreau là.
Ce jour-là, la rédaction reçoit la visite d'un lecteur, Akos Badash. Il a entendu la nouvelle à la radio, mais il n'arrive pas à croire que son journal va cesser de paraître.
Je suis un lecteur assidu du Magyar Nemzet. Quand j'ai entendu que le dernier numéro paraissait demain, la moutarde m'est montée au nez. Ça me met en colère. C'est un bon journal. Et il faudrait qu'il disparaisse simplement parce qu'il critique le gouvernement.
Mais le plus étonnant est que ce fidèle lecteur du Magyar Nemzet est aussi un électeur de Viktor Orban.
Je vote pour le Fidesz parce que je trouve que Viktor Orban est bien plus sympathique que tous les politiciens d'opposition. Bon, il faudrait qu'Orban fasse un peu le ménage, c'est vrai, dans son camp. Il y a des affaires, pas claires. Mais j'ai lu les programmes des partis d'opposition, j'ai rien trouvé de bien. Guy Orsani, le président des socialistes, il veut faire venir des migrants.
Quelques jours plus tard, la rédaction publie un numéro spécial intitulé « Samizdat, Magyar Nemzet ». Un numéro pour garder le contact avec ses lecteurs. 40 000 exemplaires sont distribués dans la rue. Kataline Klotschko est venue chercher le sien.
Ce journal qui existait depuis 80 ans est mort à cause d'une guerre entre son propriétaire et Viktor Orban. J'aimais beaucoup ce quotidien, il disait la vérité. Et voilà, c'est fini. 90% des médias hongrois sont entre les mains du gouvernement. Et maintenant, la vérité, si l'on peut dire, sortira seulement de la bouche du gouvernement. Ça me rend très triste.
Malgré tout, l'équipe du Madiar Nemzet veut garder le moral. On parle d'un éventuel rachat du journal par un investisseur. La rédaction prépare aussi un projet de financement participatif pour sauver le site internet du quotidien. So I have to decide if it's all going to last. I got the in the round blues, yeah. Believe or stay blue.
3 millions d'Européens vivent au Royaume-Uni, jusqu'alors du moins, car après le vote du Brexit, par crainte du futur ou parce qu'ils se sentent de moins en moins bienvenus, ils sont nombreux à quitter le pays. Nous allons entendre le témoignage d'une jeune Française qui a tiré un trait sur sa vie britannique pour cause notamment de Brexit. Mais tout d'abord, Marie Billon, donnez-nous une idée de l'ampleur de ce mouvement qui toucherait plusieurs milliers de personnes.
Ça ressemble au titre d'un film d'horreur hollywoodien, The Departing. Ceux qui sont vont. C'est comme ça que l'hebdomadaire The Spectator appelle ces Européens qui plient bagages à cause de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union. Beaucoup sont surpris de se sentir toujours aussi peu les bienvenus au Royaume-Uni, près de 2 ans après le vote. Mais les titres agressifs dans la presse et la verve des pro-Brexit font perdurer cette impression. La manière dont les négociations sont menées ne les rassure pas non plus. Theresa May a été forcée de préserver les droits des Européens au Royaume-Uni jusqu'en 2021. D'ici là, tous ceux qui seront déjà dans le pays pourront qualifier pour la résidence permanente ou un statut équivalent. Mais après, les Européens seront des immigrés comme les autres, soumis donc à la nécessité de remplir des critères drastiques pour obtenir un visa. Voilà pour le scénario le plus optimiste. Mais si les négociations du Brexit échouent, Theresa May n'est plus tenue par le statut que Bruxelles a réussi à négocier pour les ressortissants européens. La situation est donc trop précaire, juge-t-il. Mais pour l'instant, l'exode est surtout visible profession par profession. Les universitaires sont parmi les plus nombreux à partir. Ils sont 1300 à avoir quitté le Royaume-Uni l'an dernier. Rajoutez à cela environ 1000 ressortissants de l'UE autres que professeurs, travaillant pour le secteur de l'enseignement supérieur. Cambridge, l'une des universités les plus prestigieuses du pays, a perdu à elle seule 184 Européens. Ils sont partis parce qu'ils ont peur que les équivalences entre universités européennes ne fonctionnent plus après le Brexit, que leur expérience n'ait plus de valeur. Même chose pour les scientifiques, pour les docteurs et surtout pour les infirmiers et infirmières européens. En un an, ils ont été 67% de plus à quitter le registre national. Un point commun à tous ces departings, ils sont persuadés que l'économie britannique va souffrir du Brexit. Alors finalement, pourquoi rester ? Le problème, c'est que ceux qui ont des économies au Royaume-Uni n'ont pas envie de les bouger, la livre ayant perdu plus de 10% de sa valeur face à l'euro depuis le référendum.
Quitter le Royaume-Uni, c'est donc le choix qu'a fait Sophie, 30 ans, après 8 années passées sur le sol britannique. Même si son choix n'a pas été uniquement motivé par cette annonce politique, la décision du Royaume-Uni de quitter l'Europe a largement contribué à son départ. Dans le bar bien nommé Paris-London, elle a expliqué à Frédéric Lebel comment ce choix avait finalement pris corps à partir de la campagne pour le Brexit.
À l'époque, j'étais partie de Londres, je vivais dans la campagne britannique, et là... C'était assez intéressant parce qu'en fait, le parti, notamment le UKIP, qui votait pour la sortie de l'Europe, ne se cachait même plus. Donc il y avait beaucoup d'affiches, des affiches assez criardes, un peu partout, le long de la route, avec des slogans qui étaient assez choquants pour moi en tant qu'expat. Donc « Claim our country back », c'est un peu « Récupérons notre pays ». Donc on leur a pris une partie de leur identité ou une partie de leur pays. Et c'était des affiches assez agressives. Et par exemple, en parlant avec de la famille et des amis à Londres, ils ne voyaient pas du tout ça. Ce genre d'affiches n'avait pas lieu d'être. Justement, les gens allaient les décrocher, alors qu'à la campagne, on en voyait beaucoup plus.
Est-ce que à certains moments, vous vous êtes sentie justement vraiment étrangère ?
Malheureusement, oui. Donc à l'époque, je travaillais dans un café, par exemple. Et donc, il y avait 2 jeunes hommes assis à la terrasse, voilà. Et moi, je viens leur servir un café, ils entendent mon accent. Et tout de suite, on commence à parler de ça. Et j'entends des choses du style, mais vous, de toute façon, vous allez bientôt rentrer chez vous. Pas des messages très agréables. Donc oui, il y a eu quelques moments où je me suis sentie étrangère, c'est sûr.
Et le 23 juin 2016, donc, les Britanniques votent à 52% pour la sortie de l'Union européenne. J'imagine que c'est un jour dont vous vous souvenez.
Oui, ouais, ouais, ça a été un vrai choc. Donc j'étais à l'époque avec j'avais un homme anglais et il m'avait dit non, ça ne passera pas. Et on s'est réveillés et un gros coup de massue, une tristesse profonde, mais vraiment. Lui était très choqué, moi aussi, une envie de pleurer et un désarroi. Qu'est-ce qu'on va faire? Et même lui ne comprenait pas. Et ensuite, je suis allée au travail et là, mes amis anglais m'ont serré dans leurs bras. Et c'était vraiment, il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de tristesse, mais ouais, il y a eu un genre d'élan d'amour. On vous aime encore, quoi. C'était, ouais.
Et vous vous disiez que ça allait être difficile de rester, déjà?
Oui, sur le coup, ça m'a blessée parce que c'était la première fois en 8 ans que je ne me sentais plus la bienvenue. Et 8 ans dans un pays, on se sent, je me sentais presque plus anglaise que française. Je m'étais adaptée à la culture, voilà. Et d'un seul coup, de se dire, on ne fait plus partie de l'Europe. Et est-ce que moi, je veux rester dans un pays qui ne fait plus partie de l'Europe ou qui ne fera plus partie de l'Europe à un moment? C'était blessant.
Et vous aviez l'impression que... vous ne pouviez plus vivre sereinement au Royaume-Uni ?
Si, je pense que vivre sereinement. Sur le coup, il y a eu le choc de la nouvelle. Il y a eu 2-3 remarques désagréables, mais il y a aussi eu beaucoup de témoignages d'amour. Je me suis posé des questions sur la sécurité de l'emploi. Donc à ce moment-là, j'étais en transition, donc je n'avais pas un emploi sur le long terme. Et je me suis demandé, est-ce que voilà, le recrutement dans une nouvelle entreprise, est-ce que ça va être plus difficile? Est-ce que mon CV va être jugé plus durement parce que j'ai pas la nationalité anglaise, j'ai pas la carte de résidente permanente? Et je me suis demandé si ça allait mettre un peu des bâtons dans les roues, alors que tout avait été très très simple depuis mon arrivée. Vraiment aucun problème, aucune discrimination. Donc oui, je me suis demandé si les choses allaient être un peu plus difficiles pour moi après le Brexit.
Depuis, il y a eu pas mal de discussions qui se sont engagées entre Londres et Bruxelles, et notamment sur le devenir de ces 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni, avec la garantie qu'ils pourront obtenir le statut de résident permanent. Et ça, c'était pas une option?
Si, c'était une option, et je l'ai considéré. J'ai certains amis qui l'ont fait. Il y a beaucoup de paperasse, et moi, c'est ça qui me gênait un petit peu, l'idée de me dire, bon, ça fait 8 ans que je suis dans le pays, que je participe... et maintenant, je dois justifier ces 8 années et je dois remplir des dossiers. Et bon, je me suis dit non. Dans ce cas-là, j'irai. C'est le bon moment pour rentrer, peut-être.
Et le départ, il a été douloureux.
C'était une page de vie qui se tourne. Oui, c'était un peu douloureux parce que je suis très attachée à la culture anglaise quand même. J'y ai passé 8 très belles années. On est différents, mais moi, je les adore sur plein de points. Et donc. Ça a été un pincement au cœur, mais pas de nostalgie aucune. On continue d'avancer et puis tout va bien. Et on, voilà, j'en garderai de très bons souvenirs.
Sophie, une jeune Française qui vient de quitter le Royaume-Uni, au micro de Frédéric Lebel. On la croyait disparue depuis 20 ans et voilà qu'elle fait son retour en force en Serbie. Depuis décembre dernier, la rougeole a déjà fait 15 morts, Philippe Bertinchamp.
Jusqu'à présent, plus de 4700 cas ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire, faisant 15 victimes. La première, un homme de Belgrade âgé de 30 ans, décédé des suites d'une inflammation pulmonaire. La dernière, un bébé de 11 mois. Dans tous les cas, les victimes étaient non ou mal vaccinées. Il faut dire que ces dernières années, le pays n'a pas été épargné par une lourde campagne anti-vaccin. Beaucoup de parents, mal informés, refusent en effet de vacciner leurs enfants, craignant que le fameux vaccin rougeole au rayon rubéole soit à l'origine de l'autisme. D'autres estiment que la substance inoculée en Serbie est d'une qualité inférieure à celle des pays de l'Union européenne, et s'en méfient. Ainsi, en octobre 2017, une étude a révélé qu'à peine 35% des enfants de la municipalité de Starigrad, dans le centre-ville de Belgrade, étaient vaccinés. Un autre groupe, particulièrement sensible à la maladie, sont les Roms, tout comme les réfugiés, chez qui la couverture vaccinale est inconnue ou largement insuffisante. Un groupe de 270 parents a déjà porté plainte contre 43 individus, parmi lesquels des personnalités publiques, comme la célèbre chanteuse Yelena Karlocha, qui ont mené campagne contre les vaccins. Alors que l'épidémie progressait, les demandes de vaccination pour les enfants ont explosé, plus de 70 000 depuis l'automne dernier, deux fois plus que les années précédentes.
En En France, la réforme de la justice, dont les grandes lignes ont été présentées le mois dernier, a jeté dans les rues de plusieurs villes quelques milliers d'avocats. Parmi les mesures en préparation, un recours accru aux peines alternatives à la prison pour les condamnations de moins d'un an. L'objectif notamment est de désengorger les établissements pénitentiaires en sureffectif. Une approche qui revient à s'éloigner de la notion de punition pour privilégier le respect des normes sociales et faciliter la réinsertion. Partout en Europe, depuis 30 ans, cette question est sur la table et les pays y répondent de façon assez différente. Voyons ce qui se passe chez nos voisins avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors Daniel, la France emprisonne-t-elle trop systématiquement les auteurs de délits mineurs ?
Oui, Laurent, même si les peines de prison ferme sont essentiellement appliquées en cas de récidive, et qu'en 2017, 45% des peines d'emprisonnement prononcées ont fait l'objet d'un sursis total, auquel s'ajoutent les sursis partiels. Mais attention, le sursis est une suspension de peine et ne relève pas des peines alternatives qui consistent à condamner à autre chose qu'à la prison, privation de droit, par exemple celui de conduire, travail d'intérêt général, amende, stage de citoyenneté ou contrainte pénale comme l'assignation à résidence. Les peines alternatives se distinguent également des aménagements de peine comme la libération conditionnelle et surtout la surveillance électronique via le bracelet qui suppose le prononcé préalable d'une peine de prison. C'est en particulier ce point que la réforme veut changer.
Alors dans quelle mesure, Daniel ?
Au lieu d'une courte peine de prison, il s'agira de prononcer d'emblée une peine de surveillance électronique intégrale, qui deviendra donc une peine alternative, ou un régime de semi-liberté comportant, par exemple, le retour en prison chaque soir. L'objectif étant bien sûr de ne pas couper le condamné de la société pour éviter ensuite une difficile réinsertion. Plus de prison ferme donc pour les peines inférieures à 6 mois et le moins d'internement possible pour les peines de 6 mois à 1 an.
Alors est-ce que les prisonniers condamnés à moins d'un an sont aujourd'hui plus nombreux en France qu'ailleurs en Europe ?
Absolument. Selon les chiffres du ministère de la Justice, 45% des personnes condamnées actuellement incarcérées en France purgent des peines de moins d'un an. Dans l'Union européenne, la moyenne n'est que de 17%. Et seuls deux pays voisins présentent des niveaux similaires à la France. Il s'agit des Pays-Bas, 42%, et de l'Allemagne, 45% également.
Alors voyons voir maintenant ce qui se passe dans les pays très répressifs.
En Espagne et en Angleterre, le taux d'emprisonnement est très élevé, respectivement 132 et 147 pour 100 000 habitants. Mais la part des peines de moins d'un an n'est que de 8%. Outre-Manche notamment, on a beaucoup développé la condamnation à des travaux d'intérêt généraux pour les petits délits, 75 000 par an contre seulement 17 000 en France. Et pour les peines de moins d'un an, il y a libération systématique à mi-parcours.
Alors en Scandinavie, on peut supposer que les peines alternatives sont légion ?
Eh bien, pas tant que cela. Ces pays sont très innovants en matière de prison ouverte et globalement peu répressifs dans la mesure où la prison ferme est plutôt réservée aux délinquants dangereux. Mais les Scandinaves ont surtout réduit le nombre de prisonniers en révisant à la baisse les peines passibles de prison.
Alors finalement, Daniel, la disparition des courtes peines de prison a-t-elle un effet marqué sur la récidive ?
Les comparaisons en matière de récidive sont délicates car les pays n'utilisent pas les mêmes critères. Ce que l'on peut dire, c'est qu'avec un taux de récidive à 5 ans de 61%, la France est bien plus frappée par le phénomène que les pays qui emprisonnent moins. En général. De fait, l'Angleterre, qui a un taux global d'emprisonnement très élevé, connaît un taux de récidive encore supérieur à la France, même si seulement 8% des prisonniers anglais purgent des peines de moins d'un an. À l'inverse, le taux de récidive est relativement élevé aux Pays-Bas et en Allemagne, dans des pays qui globalement emprisonnent peu, mais incarcèrent une grande proportion de condamnés à des courtes peines. Conclusion, il faut à la fois réduire fortement l'incarcération des condamnés à moins d'un an de prison et le taux global d'incarcération.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
Françoise Grelot et Richard Rifono ont réalisé et mis en onde cette édition d'Accent d'Europe. On se retrouve demain dès 17h40, temps universel.
L'épopée.